good.
Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope. Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Kaléidoscope, c'est Calibre qui commence. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin. Nous avons donc ce soir pour vous accueillir au téléphone Maud, Noémie à la technique et Lunar et Lou à l'animation.
Alors bon, désolé pour les 3 minutes de retard, hein. On était en train de profiter un peu du soleil puisque... La nuit se couche plus tard sur Grenoble et donc dehors du studio, on a du soleil, à l'intérieur il fait plus sombre et on a un peu traîné, il faut bien l'avouer. Bon, rapidement, le pitch de Calibre. Calibre, c'est une émission de Libre Antenne. C'est-à-dire que c'est vous qui nous appelez pour nous parler de tout ce qui vous chante autour du corps, des sexualités, des amours ou relations affectives, ce genre de choses. Bon, on a préparé des petits trucs si vous nous appelez pas, mais quand même, appelez-nous, ce sera bien mieux.
Tout à fait. Vous pouvez du coup nous appeler au 04 76 09 09 09. Si vous ne pouvez pas écouter l'émission aux heures où on la diffuse, vous pouvez les retrouver sur internet sur notre site kcas-libres.org.
Et puis voilà, alors si vous pouvez pas nous appeler ce soir ou vous voulez nous laisser des commentaires, des petits mots, des choses comme ça, n'hésitez pas, le mail de l'émission c'est calibre cas-libres@poivron.org. Et puis Radio Kaléidoscope c'est une petite radio, alors il y a qu'une ligne de téléphone. Donc si vous nous appelez et que ça s'en occupe, il faut rappeler juste après et puis quand la personne aura raccroché quoi, pouf pouf. Et puis, voilà un premier morceau, hein, pour vous laisser le temps de nous appeler. Alors 04 76 09 09 09. Et on commence avec,
Stéréo Total, L'amour à trois.
C'est ça.
Moi, ce que j'aime, c'est faire l'amour. Spécialement à ça fait hippie complet, mais je le crie sur les toits. J'aime l'amour à trois. Moi ce que j'adore, c'est les petites caresses à quatre mains.
vous êtes de retour sur Calibre, sur Radio Kaléidoscope et peut-être ailleurs sur Internet. Quoi dire ? Alors, toujours pas d'appel pour l'instant, donc 04 76 09 09 09, n'hésitez pas. Et puis pendant ce temps-là, en attendant un petit appel, je suis allé voir sur le site de qu'a lancé récemment l'association SOS Homophobie, et qui s'appelle c'est comme ça.net. Alors CESTCO2MECA.net. Alors vous mettez c'est comme ça, sans espace, sans ponctuation, sans accent, sans cédille, .net. Et donc c'est un site voilà, où ils ont pas mal d'informations pour les jeunes lesbiennes, gays, bi, trans et curieux. Et puis voilà, alors il y a plusieurs définitions, des termes, des ressources, des films, des bouquins, des portraits de gens un peu célèbres et des témoignages de gens moins célèbres. Et puis on est tombé sur ce témoignage-là d'un lycéen qui nous a bien plu. Alors voilà, on avait envie de vous le lire parce que c'est plutôt une chouette histoire.
Alors témoignage, un coming out au lycée en douceur. Je m'appelle Florent, j'ai 23 ans aujourd'hui et j'ai fait mon coming out lorsque j'avais 17 ans et que j'étudiais dans un lycée agricole en internat. À l'époque, j'étais fou amoureux d'un de mes camarades de chambrée et même si je n'avais pas encore accepté que je suis homo et qu'il s'agissait d'une situation particulière, je sentais qu'il y avait là quelque chose d'impossible qui m'a mis très mal à l'aise à l'époque. Quand je me suis rendu compte de mon homosexualité et de ce que ça impliquait, j'ai d'abord eu une réaction de rejet total. J'ai beaucoup pleuré, j'ai prié aussi, même si je ne suis pas spécialement croyant. Mais je cherchais n'importe quoi, à quoi me raccrocher pour essayer de « redevenir normal », entre guillemets. Et c'est comme ça que j'ai fini par sortir avec une camarade de classe pour essayer d'être normal, comme tous mes autres copains. Notre relation a duré quelque temps, mais je sentais bien qu'il y avait tout de même quelque chose qui clochait et que je n'étais pas satisfait de cette situation. J'ai beaucoup retourné la question dans ma tête, et finalement, j'ai bien été obligée d'admettre que j'avais toujours été attirée par les garçons, d'aussi loin que je puisse me rappeler, et que, si je ne me sentais pas à ma place auprès de ma copine, c'était sans doute parce qu'il fallait que j'accepte cette réalité différente qui était la mienne. J'avais un peu peur au début de dire à mes amis que je suis homo, mais j'avais eu la chance de n'avoir jamais été témoin de situations homophobes. J'avais toujours été épargnée, et c'est peut-être cette naïveté qui m'a aidée à franchir le pas et à faire mon coming out. Je l'ai d'abord dit à une amie très proche, et même si elle a été étonnée, étant donné que je sortais avec une fille, elle l'a très bien accepté. Fort de ce premier succès, j'ai trouvé le courage d'en parler à ma petite amie, qui, étonnamment, n'a pas paru s'offusquer outre mesure de ma révélation. Et puis, petit à petit, j'ai élargi mon coming out à tout mon cercle d'amis, et ne rencontrant aucun problème, j'en ai parlé plus librement, de sorte que toute ma classe, et sans doute une bonne partie du lycée, ont dû finir par être au courant. J'ai eu un peu peur à l'époque. Je me disais, c'est un lycée agricole, il doit y avoir plus de préjugés, je vais tomber sur des connards qui vont me faire des problèmes. Eh bien non, aussi incroyable que cela puisse paraître, je n'ai jamais été victime d'aucune manifestation homophobe d'aucune sorte. Je n'ai jamais été insultée, encore moins menacée ou frappée, ni même ridiculisée ou marginalisée. Si certains ont eu des réactions négatives, elles ne me sont jamais parvenues.
Alors c'est un peu long, je prends la suite. Après avoir discuté avec des amis de mon étonnement face aux réactions si positives de l'ensemble de mes camarades de classe, il y en avait pourtant des plus ou moins machos, de la part de qui j'avais craint spécialement des réactions négatives. La seule explication qui soit ressortie de ces discussions a été « Tu n'as jamais changé ton comportement, tu as toujours été honnête et tu n'as pas cherché à cacher la vérité. Tu n'as menti à personne, du coup personne n'avait d'accroche pour te lancer la moindre pique. » En gros, mes amis étaient persuadés, et je le suis également entre-temps, que c'est parce que j'ai réussi à surmonter mes problèmes rapidement et à me montrer tel que je suis aux autres que du coup personne n'a trouvé de prétexte ou d'occasion de se moquer de moi ou de m'insulter. Depuis, je suis convaincu que le fait d'avoir un problème avec soi-même est un terrain sur lequel les homophobes peuvent trouver une accroche pour nous faire du mal. Bien sûr, je suis conscient d'avoir eu énormément de chance, mais tout de même, je crois que m'être comporté en assumant mon homosexualité a joué pour beaucoup dans l'acceptation qu'ont eu les autres de moi-même. D'ailleurs, la meilleure preuve qui soutient cette théorie est le fait que, lorsqu'après mon baccalauréat, je suis entré en BTS agricole dans un nouveau lycée, j'ai adopté la même attitude assumée et décontractée. Affichant la couleur d'entrée de jeu, de manière même un peu provocante, j'ai accroché des posters boys de têtu sur les murs de la chambre d'internat. Et bien en 2 ans, je n'ai jamais eu aucune remarque négative ni aucune insulte. Bien sûr, certains de mes camarades étaient plus ou moins mal à l'aise avec le sujet et il y a eu des plaisanteries à ce sujet. Mais ils ont tous très vite compris que je n'avais pas de problème avec ce que je suis et du coup, c'est leur curiosité qui l'a emporté. J'ai dû répondre à des questions un peu plus naïves telles que « Mais ça te plaît de te faire enculer? Ça ne fait pas mal ?» ou bien « Ça te gêne pas de faire la fille ?» Mais toutes ces questions, même si elles m'ont paru pour le coup un peu désagréables, n'étaient probablement motivées que par la curiosité et l'originalité que je devais représenter à leurs yeux. En fin de compte, j'ai l'impression d'avoir eu affaire à des gamins qui découvraient les mots pénis et anus et qui ont besoin d'un petit temps d'adaptation avant d'intégrer cette nouvelle réalité dans leur vie quotidienne. J'ai aussi eu affaire à des réactions non pas hostiles mais plutôt angoissées, comme un de mes camarades de classe qui m'a dit « Je n'ai pas de problème avec le fait que tu sois gay tant que tu me sautes pas dessus ». J'ai trouvé un peu décevant que je lui fasse de toute évidence si peur et surtout je me suis demandé si lui, en tant qu'hétéro, ne pensait qu'à sauter sur la première fille qui pourrait passer à sa porte. Voilà, alors ça a été reçu le mois dernier sur donc le site c'estcommeça.net. Voilà. On pourrait, je sais pas, on sait pas trop quoi dire face à ce témoignage, mais je trouve que c'est une, ça a l'air de s'être bien passé pour lui, et alors après il est un peu, pour plein d'autres jeunes homo ou PD, selon comment ils se définissent, voilà, c'est pas forcément toujours aussi rose, quoi, on pourrait dire.
C'est ça, aussi rose. Que ce soit avec les familles, les amis, le lycée. C'est sûr. Mais bon, il a quand même fait face à des remarques. Mais bon, comme il dit, plus motivé par la curiosité.
Bah après, c'est aussi, il a l'air de les avoir pas trop mal vécues. Je pense aussi comment, et après il le dit, c'est comment à un moment donné les choses nous touchent qui marquent, bon, plus ou moins des points ou quoi. J'en sais rien. Enfin, qui fait plus ou moins mal.
Ouais.
Mais en tout cas, bon voilà, c'était. Si ça vous fait. Ça vous donne des idées, vous avez des témoignages similaires à partager, vous pouvez nous appeler, donc je redonne encore une fois le numéro, ou vas-y Lou.
Allez, 04 76 09 09 09.
Et puis sinon je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ce site, hein, qui est quand même relativement bien fait. Voilà, alors un nouveau morceau, ou toi t'aurais d'autres choses à rajouter
Bah, ça me fait penser à toutes les réactions qu'on peut avoir face à justement l'homosexualité affichée de quelqu'un, mais là comme ça, non, pas spécialement. Du coup, je pense qu'on peut soit passer à un autre, soit
allez, un petit morceau. Et puis alors la suite c'est un morceau de Robert Nishka, ce groupe entre Dijon et ailleurs, et c'est un morceau qui s'appelle Disco Girls. Thank you.
Alors oui, ce petit témoignage nous a fait penser du coup aux principales choses que l'on renvoie aux homosexuels qui sont, je parlerai en premier de ce rapport à qui saute sur tout ce qui bouge un petit peu comme il dit, on se demande pas pour les hétéros, on pense pas qu'ils vont sauter sur la première fille qui pourrait passer, mais c'est une question qui revient vachement quant à l'homosexualité, cette histoire de pas se contrôler.
Bah en tout cas, si je pense, t'as ce truc où à un moment donné les comment dire pour des garçons en tout cas, parce que je crois que les filles elles ont en tout cas en général, l'habitude, ce truc de tomber sur des garçons pénibles dans la rue
partout.
C'est ça. Et à un moment donné, qu'est-ce truc que les garçons vivent pas trop. Et alors, paf, du coup, ils voient un PD. Et hop, ils se disent...
Il va me sauter dessus.
Ouais. Et que c'est justement un truc qu'ils vivent pas le reste du temps. Alors là, pouf, hop, ils ont peur sans se demander...
C'est vrai.
Si jamais ça pourrait faire chier des filles de dire la même chose, quoi. Mais il le dit à la fin du témoignage, mais... Voilà, on peut le réexpliquer un peu comme ça.
C'est vrai, c'est vrai. Après, il y avait cette histoire aussi de faire la fille et d'être considérée comme cette insulte qui est souvent reprise, c'est de femmelette, de... Tu tirais le lien avec la passivité qui se retrouve aussi dans ce rapport à la sodomie qui est problématique pour beaucoup, j'ai l'impression.
Il y a ce truc à un moment donné, être pénétré, c'est forcément être passif.
Mm-hmm.
Bon, ce qui est un truc qui me semble fou parce que, enfin, ou alors c'est chiant les pratiques de pénétration dans le sexe si jamais il y a une des personnes qui est vraiment passive. Enfin,
mm-hmm.
Mais en tout cas que, enfin voilà, il y a ces espèces d'amalgame quoi que font des mecs. Passivité égale fille égale PD. Enfin, il y a tout ce truc là de. Et après l'autre aspect là-dedans, là, dans c'est ça, c'est ce truc de, à un moment donné, pour plein l'image des le stéréotype du gay, forcément ça va être un garçon, on dit efféminé ou je sais pas comment, voilà, ou il y a tout ce personnage des films où bon, des fois on en croise aussi en vrai, mais quand même de la folle quoi, qui est un peu qui va être plutôt un garçon, qui va parler avec la voix aiguë, qui va avoir plein de tests des mains. Bon, moi j'ai l'impression d'être un peu une folle des fois. Mais en tout cas, bref, mais et je sais pas, c'est ce truc de à un moment donné, ben voilà, on peut être une folle et être hétéro, on peut être homo et pas du tout triper justement la culture PD ou l'identité PD, enfin tout ça c'est assez finalement c'est pas si lié quoi. D'être attiré par des garçons en tant que garçon ou d'être attiré par des filles en tant que fille, de à un moment donné, c'est quoi notre attitude au quotidien dans la vie et comment, avec qui on, de qui on, de quelle culture on se sent proche, de quelle identité on se ressent.
Tout à fait.
Voilà. C'était un peu ce qu'on avait rediscuté pendant la pause.
Oui, la pause musicale. Du coup, moi, j'enchaînerais bien sur un mail qu'on a trouvé aussi. Sur internet, je vous lis la question. Il y a une question que je me pose depuis quelque temps, pourriez-vous y répondre? Je ne l'ai pas vue sur le site, j'espère que j'ai bien cherché. Voilà, nous avons essayé, mon ami et moi, de faire l'amour dans l'eau, mais hélas, nous n'avons pas réussi. En fait, nous avons eu l'impression que l'eau agissait comme un frein. Comment cela se fait-il? Nous étions bien prêts. Merci d'avance pour votre réponse, ainsi que pour les autres, etc.
Bon alors c'est bientôt l'été, hein. Du coup on s'est dit hop, il y a du soleil, question estivale, la plage, la mer,
la rivière,
bon, voilà,
le lac,
c'est ça, plutôt Grenoble, hein, rivière, lac, piscine, c'est moins sexy que la Méditerranée ou l'Atlantique, mais... en tout cas voilà, ça nous paraît, c'est une petite question de saison.
Tout à fait.
Mais alors faire des câlins dans l'eau.
À part que ça peut être agréable, que dire? Et ben, du coup, là, la réponse, entre autres, qui avait été apportée par le site, il parlait pas mal des problèmes de lubrification, et où il disait que les lubrifications vaginales de la femme ont tendance à s'altérer au contact de l'eau, et que du coup, ça peut accentuer cet effet frein. Et...
Bah oui.
Tout à fait. Du coup, je me demande si... on peut utiliser d'autres lubrifiants qui soient pas à base d'eau quand on est dans l'eau.
Bah, Je pense on peut. Après, toute la. Je veux dire, nous, on parle beaucoup de la réduction des risques dans la sexualité, se protéger, etc. Et j'ai du mal à imaginer comment on peut, par exemple, pour des pénétrations, mettre des capotes quand dans on l'eau. Fait des câlins sous l'eau, par exemple. Mais bon, c'est un truc en passant. Oui, j'ai...
C'est vrai.
Je pense on doit en tout cas c'est bon alors et justement parce que si on met des capotes, hop, il faut des lubrifiants à base d'eau et du coup on peut pas les jeter sous l'eau parce que ils vont dissoudre dans l'eau et plus avoir du tout d'effet lubrifiant quoi. Après j'en sais rien. En fait je trouve ce truc de même au-delà des activités de la pénétration et des choses comme ça, je trouve que l'eau ça élimine vachement de sensations dans les caresses, mais je serais hyper curieux s'il y avait les auditeurs ou les auditrices qui aimaient bien ça, qui nous appelaient. Parce que, enfin, je sais pas si toi, t'as déjà essayé ce genre de truc, mais moi, je trouve ça hyper sexy, la flotte.
Ah ouais, je sais pas, moi j'en ai un souvenir lointain, mais pas désagréable, mais il faudra que je réessaye pour vous dire, je témoignerai à Calib la prochaine fois, me dire, c'est vrai.
Ben en tout cas pour la après faut aussi je pense faire gaffe par exemple pour la mer, je me dis que le sel ça doit quand même avoir un côté un peu irritant aussi. Et du coup, je me dis qu'il vaut mieux sans doute une eau claire si elle met pour faire des câlins dans l'eau et peut-être pas des piscines trop chlorées ou avec plein de saloperies comme ça parce que à un moment donné ça doit pas être hyper bon pour le corps, on va dire.
La flore.
Ouais.
C'est vrai, je pense qu'il vaut mieux éviter les eaux chlorées ou trop salées, pour tout ça.
Mais en tout cas, c'était la petite question estivale et si vous avez d'autres réponses à apporter ou d'autres sujets à aborder, appelez-nous, hein, décidément. 04 76 09 09 09.
Alors pour revenir sur cette question, eux ils conseillent du coup un lubrifiant à base de latex qui est censé résister mieux au contact de l'eau. Alors bon, je me dis ça peut aider dans ces cas de pénétration aquatique comme là la fille qui se pose cette question. À voir aussi, à tester.
Oui. Voilà, petite nouveau morceau de musique à la technique, Noémie, tu peux lancer. Alors c'est The Knife qui est un quétais, je crois que c'est Dissous, c'est un groupe suédois et le morceau s'appelle Pass This On.
I'm in love with
Radioscope 97 FM à Grenoble, partout ailleurs sur internet. C'est toujours une émission libre antenne autour des corps, des amours, des sexualités, tout ça. Et c'est 04 76 09 09 09. Si vous voulez nous appeler, c'est pas dur à retenir. Alors, Calibre, on n'est pas des experts, Enfin, on est des gens qui s'intéressons à tous ces sujets dont on parle, et puis alors on lit beaucoup de bouquins, etc., etc. On se documente, on regarde des films, on discute beaucoup entre nous. Et puis des fois aussi, on reçoit des mails sur la boîte de l'émission. Et là, on est tombé sur un auteur qui plus ou moins sexologue. C'est pas bon. Tu nous expliqueras. Qui s'appelle Jean-Claude Picard et donc qui a pondu un bouquin qui s'appelle Les deux extases sexuelles, la jouissance et l'orgasme. Alors, il nous a envoyé un mail en me disant j'ai sorti ce livre. Je suis sûr que ça va vous intéresser. J'aime beaucoup votre émission. Et puis il a dit si vous voulez je vous envoie un exemplaire gratos. Alors bon, on a fait ok, envoie quoi. Et puis alors bon, on l'a reçu, Lou l'a lu, et je crois que t'as plein de trucs à en dire.
Oui, plein de trucs à en dire, parce que du coup, avant de parler d'un livre à l'antenne et d'en faire sa promotion éventuelle, on s'est dit qu'il fallait quand même bien le lire, histoire d'être sûr de ce dont on parle. Et du coup, en effet, il se définit pas comme sexologue, ce que je peux comprendre, puisqu'il critique beaucoup la sexologie et les sexologues, leur façon de parler de sexualité. Et du coup, dans ce livre, je crois qu'il y a beaucoup plus de choses que j'ai pas appréciées et avec lesquelles j'étais pas spécialement d'accord que de choses que j'ai aimées. Bien que du coup, ils partent d'une idée qui est pas mauvaise. Hein. Lui, il est très attaché au langage et à la communication. Et il trouve qu'on manque de mots pour parler de sexualité et qu'on n'a pas de distinction claire forcément entre justement la jouissance et l'orgasme et qu'on mélange un petit peu tout ça, le plaisir, la jouissance, l'orgasme, qu'est-ce que c'est. Du coup, lui, il fait une distinction entre les deux et du coup, un petit peu, on pourrait dire que la jouissance, c'est tout le plaisir qui nous est procuré avant l'orgasme, qui du coup se reconnaît, d'après lui, à ces spasmes qu'on ressent dans le corps et ces contractions qu'on ressent dans le corps juste après, et ce sentiment d'apaisement et de relâchement du désir et des tensions sexuelles.
Ça c'est la jouissance.
Non, ça c'est l'orgasme.
Ça c'est l'orgasme, ok.
Ça c'est l'orgasme, et donc ce qui est avant, c'est la jouissance.
Ok.
Enfin, je dis avant, mais ça peut revenir après, etc. On peut enchaîner.
Bon, ok.
Voilà. Et du coup, bon, ça, c'est cette histoire de distinction entre les deux, moi j'ai trouvé ça intéressant. Après, il nous rappelle l'importance, comme le périnée, de ce muscle-là dans le plaisir. Il nous parle du coup de cette course à l'orgasme qui est un peu prônée en ce moment. Vous voyez, c'est un peu le centre de la sexualité.
Il faut avoir un orgasme,
etc. Et où du coup, lui, il en parle en particulier lors de la découverte de la sexualité pour les jeunes hommes, qui du coup découvrent assez rapidement l'orgasme, mais qui parfois, pour lui, passe à côté de la jouissance, justement. Et donc, il les incite à différer leur orgasme pour profiter de la jouissance plus longtemps. Et voilà, il nous parle aussi de la répression sociétale sur la masturbation, l'excision mentale du clitoris en Occident ces deux derniers siècles, qui ont même disparu des livres d'anatomie de médecine, jusqu'à très peu de temps. Il dénonce aussi la prépondérance de la pénétration. Bon, cependant, il en parle tout le temps. Et il n'envisage pas d'acte sexuel sans. Ah. Voilà. De la même manière, c'est très hétérocentré. Il n'est pas du tout référence à la sexualité homosexuelle, qu'elle soit lesbienne ou entre PD. Et pareil, c'est très centré autour du couple et de l'harmonie autour du couple et de l'union du couple.
Mais du coup, là, ça, c'est un truc qui se rapproche pas mal des sexologues classiques, quoi. Enfin, je veux dire, là.
Oui, c'est une approche assez classique.
Ouais.
Pour ça, oui. Okay. Pour ça, oui. Après, il y a aussi pas mal d'autres choses dans les choses négatives que j'ai trouvées. Je les trouvais pas vraiment calées aussi sur l'anatomie du clitoris, du coup, ce qui est un peu plus à déplorer. Parce qu'ils ont dit qu'il y en a autant de terminaisons nerveuses dans un clitoris que dans un pénis. Ce qui, d'après les recherches de Hélène O'Connor, est pas du tout vrai. Il parle beaucoup de la stimulation vaginale, du coup, qui provoque pour lui de la jouissance et vachement moins souvent un orgasme. Et il le trouve... Il est même pas sûr que ça existe, un orgasme vaginal. Et par contre, voilà, il parle jamais du fait que dans la stimulation vaginale, en fait, c'est le clitoris qui est excité, parce que c'est les deux branches internes du clitoris qui du coup sont stimulées par la pénétration. Du coup, ça, il en parle pas vraiment. Voilà. Après, il y a une approche aussi sur la frigidité que moi m'a assez perturbé. Je crois que je vais vous lire un petit passage, ça sera beaucoup plus clair. Du coup, il dit que si une femme s'éclate dans la jouissance de la pénétration sans jamais d'orgasme clitoridien, elle n'est pas frigide. Mais que par contre, si elle éprouve l'orgasme clitoridien mais qu'elle n'a pas de plaisir dans la pénétration et que ça l'embête, là, elle est frigide. Voilà. Et que si en plus elle a aucun des deux, elle est vraiment frigide. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec cette perception de la frigidité, ni même l'existence de la frigidité. Donc ça m'a un peu questionnée et j'ai pas forcément été en accord avec tout ce qu'il disait. Et je pense pas que cette histoire, oui, de que si une femme elle éprouve l'orgasme avec son clitoris mais qu'elle trouve pas de plaisir dans la pénétration, elle souffre de frigidité. Moi, je vois pas forcément en quoi forcément elle souffre d'une maladie quelconque. Et que, enfin.
Comme si la pénétration c'était obligatoire, comme si avoir des orgasmes avec la pénétration c'était obligatoire.
Voilà, il y a un petit côté assez effreux qui rappelle un peu Freud, dont il parle à un moment d'ailleurs, en disant qu'il était l'initiateur du recul de la répression sur la sexualité.
Bon, ça c'est hautement discutable.
Hautement discutable, même si du coup il rappelle qu'il était emprunt de ce qui se pensait à l'époque et du coup il était contre la masturbation et il rappelle que quand même Freud trouvait que trouver le plaisir grâce à son clitoris, ça allait pour les jeunes filles jusqu'à 5 ans, mais que après c'était pas bon du tout, quoi. C'était pas normal, on n'était pas mature, quoi. Si on trouvait du plaisir avec son clitoris, c'est pas dans la pénétration. Du coup, vous prenez cet homme comme être l'initiateur du recul en matière de répression sur le plaisir féminin. J'ai pas forcément été en accord. Voilà.
D'où euphémisme.
Voilà, c'est ça. Après, il y a aussi toute une partie sur la vision des préliminaires, et ne serait-ce que l'emploi de ce mot préliminaire, dont ici on est assez...
Oui.
On trouve ça assez discutable.
En gros, ce truc, à un moment donné, comme si c'est le préliminaire à un truc. Le truc, c'est forcément la pénétration.
C'est ça.
Et comme allez, on peut pas considérer à un moment donné que, voilà, partager des moments sexuels, c'est pas forcément la pénétration, et c'est aussi tout ce qu'on se fait autour comme sensation, plaisir, désir. Enfin,
c'est ça.
On pourrait dire comme ça, quoi, dans nos discussions à Calibre, ça tourne pas mal autour de ça.
C'est ça. Alors que pour lui, c'est quand même les préliminaires servent à préparer la femme à recevoir la pénétration.
Pardon, est-ce qu'il emploie, il emploie la femme dans son bouquin?
Beaucoup, oui, la femme et l'homme. Ce sont deux.
Ok, comme s'il y avait qu'un
une
seul.
Une sorte, voilà. Ouais, des moments, il différencie. Certaines préfèrent ci, certains préfèrent ça. Mais ça reste toujours dans une vision très physiologique de la femme et l'homme.
Ok, comme si on n'avait pas des corps différents. Pas entre, mais enfin, entre deux hommes et deux femmes.
Tout à fait.
Bref.
Dans ces histoires de femmes, par exemple, à un moment aussi, il dit que chez la femme, il y a beaucoup besoin d'être amoureuse et que l'importance du sentiment prône beaucoup et que c'est très primordial et que du coup, on apprend que les femmes ont besoin d'être amoureuses pour faire du sexe. Ce dont évidemment je vois les regards à la technique qui s'affole, évidemment, qu'on ne partage pas forcément et qu'on n'a pas besoin d'être amoureux pour faire du sexe, qu'on soit un garçon ou une fille, et qu'on peut avoir envie d'être amoureux pour faire du sexe, qu'on soit un garçon ou une fille.
Et qu'on peut être amoureux ou amoureuse et ne pas avoir envie de faire du sexe aussi, d'ailleurs.
Tout à fait. Oui, non, ça par contre, la sexualité... avec un apostrophe, asexualité. Lui, par exemple, le fait de ne pas avoir envie de plaisir charnel, pour lui, par contre, c'est un problème, puisqu'il invite à consulter un thérapeute. Voilà, ce qui, du coup, m'a fait aussi écho à l'asexualité dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans Calibre, et des personnes qui se revendiquent no sexe et qui ont envie que cette orientation sexuelle soit reconnue comme une orientation sexuelle et non plus comme une maladie mentale. Voilà, je vous passerai aussi le passage sur les énergies yin et yang, justement, entre les hommes et les femmes.
Oh là là.
Et moi, son histoire de préliminaire m'a beaucoup questionnée, par exemple, parce que il parle du désir qui est important, du coup, pour profiter d'une pénétration, parce que sinon, la femme peut se sentir agressée, voire même violée, si elle n'a pas de désir pour une pénétration. Et moi, j'ai envie de dire que même si on me caresse le clito et que j'ai pas de désir, je vais me sentir agressée, déjà. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup renvoyé à cette notion du viol. Et qu'on rattache tout le temps à la pénétration et qu'il n'y a pas forcément besoin d'une pénétration pour se sentir agressée. Et du coup, ça m'a un peu vraiment fait réfléchir à cette histoire de où est-ce que commence le viol. Parce que légalement, le viol commence avec une pénétration. Mais où, dans le ressenti, j'ai vraiment pas l'impression d'être d'accord avec cette position.
En tout cas, c'est quelque chose de... Moi, je trouve même que c'est quelque chose de dangereux, en fait. Bon, je l'ai pas lu, le livre, alors peut-être il dit pas tout à fait ça, mais en tout cas, d'aborder les choses comme ça. C'est pas... Enfin, à un moment donné, si... Comment dire, s'il n'y a pas de désir, eh ben... Juste, c'est... Enfin, je veux dire, c'est, à un moment donné, c'est abuser le corps d'une personne que d'imposer des contacts physiques sur ce corps, quoi. Et j'ai pas envie de... Enfin...
Que ce soit des caresses ou autre chose.
Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on... Bref, je suis troublé que ce type écrive des trucs, encore des trucs comme ça.
Plus ouais. sur sur la question de la pénétration. D'ailleurs, il aborde très peu la notion du consentement. Après, du coup, c'est pas le lieu, mais au moment où il parle de cette violence et des choses qu'on peut sentir comme des agressions, il ne revient pas non plus sur cette notion, justement, du consentement que nous, à Calibre, on trouve essentielle.
Ouais. Donné, le consentement, hein, de se dire oui, j'ai envie de ça, ou même de pas se le dire, mais en tout cas que ça soit clair à un moment donné, qu'il y ait des signaux clairs et des codes pour se dire, enfin pour se signaler des envies et du désir, à ce qui se passe des choses, quoi. Fin.
Voilà. Du coup, moi, Zougain, j'ai trouvé du coup intéressant certaines choses, mais avec pas mal de choses à laisser de côté. Et du coup, parce que donc son but premier, qui est d'arriver à mettre des mots clairs sur des choses physiologiquement différentes, qui sont donc l'orgasme et la jouissance pour lui, et que je trouve pas insensé, c'est pour du coup arriver à discuter, que ce soit entre partenaires et entre amis. Il fait le parabole avec le solfège qui sert aux musiciens en deux temps trois mouvements avant un bœuf, ils arrivent à se caler et hop, le morceau. Ça va être super, ils jouent tous ensemble au même rythme et ils enchaînent, tout va très bien. Et du coup, cette idée-là, d'avoir un espèce de langage clair pour parler facilement de sexualité, c'est une idée qui en soi, totalement
intéressante
quoi.
Enfin, même essentielle, bref, qui devrait être là.
C'est ça, qui devrait être là. Et du coup, il y met aussi la notion de parler entre générations aussi. De transmettre aux enfants et qu'on parle souvent aux enfants de sexualité juste en parlant de risques et qu'on fait pas d'éducation au plaisir et que les seules fois dont on parle aux enfants sur l'éducation à la sexualité c'est attention, protégez-vous et on insiste vachement sur les risques liés à la sexualité mais qu'on parle très peu du plaisir, de comment s'en donner et de qu'est-ce que c'est, etc. Du coup, bon, il y a des choses à prendre mais il y a pas mal à laisser. Voilà.
On pourrait dire ne le lisez pas. Enfin, en tout cas.
En tout cas, avec un esprit critique, comme pour tout livre, au final. Surtout, quoi. Du coup, pas mal de choses que moi, j'ai pas forcément trouvé en adéquation avec notre vision. Enfin, la vision de la sexualité, l'anatomie, justement, du clitoris, sur lesquels il dit des choses pas très vraies. Et voilà. Et Hélène O'Connor, il la cite une fois, mais en parlant d'Hélène O'Connell. Alors, peut-être c'est la même, j'espère quand même. Il n'y en a pas des masses qui ont travaillé sur le clitoris.
Mais moi, ça m'évoque un... En tout cas, le terme d'excision culturelle du clitoris, là, moi, je l'avais lu dans un livre de Maya Mazorette qui s'appelait La revanche du clitoris. Oui. et qui employait ce terme-là. Et aussi, il y a des dessins de clitoris. Il y a un peu une espèce de résumé des recherches d'Hélène O'Connor justement dedans. Bon, tout est pas à prendre non plus hein, dans La Revanche du clitoris, mais c'était pour faire un autre livre à lire si vous voulez vous taper des bouquins
sur le clitoris.
Après, je sais pas, moi, parce qu'en fait, en tout cas, en tant que garçon, je crois, moi, ça me touche ce truc de jouissance et d'orgasme quelque part, parce que j'ai l'impression dans mon propre parcours d'avoir appris à jouir ou un truc comme ça, ou en tout cas que à un moment donné de juste masturber le pénis, puis à un moment donné, pouf, il y avait du sperme qui sortait, et puis je ressentais un peu des trucs. Ça n'a rien à voir avec tout l'apprentissage que j'ai fait comprendre d'où venait mon plaisir et de quelle manière je pouvais le ressentir et de la puissance que ça pouvait avoir justement un truc de et qui c'est une fois ou deux pas accompagné du coup d'éjaculation mais de ce
ça
truc de jouir en tout cas j'ai l'impression d'avoir travaillé mon imaginaire, mon corps, mon désir, mon plaisir, etc. longtemps avant d'arriver à ça, que des fois que ça me parle comme idée, j'ai l'impression que mais j'ai, peut-être ça je suis pas sûr que c'est ouais en tout cas que ces termes là j'en sais rien. Il faudrait que je le lise un peu plus parce que cet aspect-là m'intéresse. Mais après, plein d'autres trucs que tu me dis là.
Non, mais il y a des trucs intéressants. Hein. Et surtout, il démonte un peu l'ancienne définition de l'orgasme, qui était du coup le point culminant du plaisir. Et où du coup, il explique que pas forcément pour lui en fait, et que justement le plaisir qu'on peut avoir avant l'orgasme peut être plus intense que cette espèce de spasme délivrant. Et que justement, c'est pas comme ça que lui définit l'orgasme, mais c'est un truc sur lequel j'étais assez d'accord et que j'avais commencé à penser avant, comme quoi, l'orgasme, c'est pas forcément le moment le plus intense, qu'il peut y avoir des différences d'intensité variables et des petits orgasmes et des immenses orgasmes. Et qui moi, me posait question aussi en me demandant, mais si c'est censé être le point culminant, là, c'est tout petit, comment ça se fait? Et où en fait, En voyant ça comme ça, le fait que c'est pas forcément le moment le plus fort du plaisir, j'ai l'impression que ça libère un peu l'esprit déjà de cette course à l'orgasme qui est censée être le meilleur truc, etc. Et que ça libère un petit peu l'esprit et que ça incite à prendre du plaisir, pas forcément que dans cette course justement à l'orgasme, au sacro-saint orgasme. Enfin, sacro-saint, c'est peut-être pas bon à dire, parce que justement, je suis pas sûre que ce soit vraiment prôné par le sacro-saint, pour le coup. Enfin, si, j'ai appris du coup, à l'intérieur du couple légitime, le plaisir est prôné par l'Église depuis les années 90, ils ont accepté ça. Mais pas la masturbation, évidemment, toujours pas, ni la contraception, ce qui est bien dommage, pour les gens qui y croient, en tout cas.
Mais en tout cas, ce truc de... j'ai juste envie d'y revenir rapidement, mais ce truc-là que tu dis, il y a plein d'orgasmes différents et tout ça. En tout cas, je pense justement, ces recherches aussi, à la fois, à un moment donné, anatomiques sur qu'est-ce que c'est qu'un clitoris. En tout cas, ça je crois, montre quelque part ce truc-là de division entre l'orgasme vaginal... Et il y a deux orgasmes. Il y a l'orgasme vaginal et il y a l'orgasme clitorien. Enfin, à un moment donné... En fait, juste c'est les mêmes nerfs, c'est le même bout du corps. Enfin, c'est juste pas stimulé du même côté, mais.
Mais ça reste le clitoris qui est stimulé, quoi.
C'est ça.
C'est ça.
Du coup, peut-être, en tout cas, cette différence-là entre, d'intensité, comme tu disais, petits orgasmes, orgasmes, machin. En tout cas, ça me paraît plus intéressant pour parler de la multiplicité des orgasmes qu'on peut avoir que une fausse division anatomique. Très justement freudienne, comme tu le disais, et pas très très intéressante, quoi.
Ouais. En même temps, il y a un côté où, du coup, ça parle et de vaginal et de clitoridien, mais ça reste flou sur comment lui il se positionne par rapport à cet orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien. Il dit pas mal comment sont positionnés les autres chercheurs, etc. Mais, sauf O'Connor. Mais par contre, il se positionne lui pas vraiment de façon hyper claire par rapport aux autres. ou en tout cas c'est assez compliqué et moi j'ai pas trop compris vraiment que lui ce qu'il en pense. Mais bon, du coup, ce qu'il en dit, c'est que bon, en tout cas, l'idée comme quoi la pénétration ferait jouir à coup sûr et avoir des orgasmes à coup sûr, ça, il dit que ça recule quand même de jour en jour, cette fausse idée. Enfin voilà, lui, il dit que c'est vachement plus rare. Mais bon, du coup, voilà, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est la même partie du corps qui est stimulée, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et sur le petit le bouton magique qu'on voit apparaître du clitoris, ou que ce soit les branches très innervées, pleines de nerfs qui sont à l'intérieur, et qui, du coup, enserrent le vagin et font ressentir des choses pendant la pénétration. Du coup, bon, c'est pas les mêmes sensations, mais c'est le même organe, et les stimuli viennent du même endroit, quoi.
Voilà, voilà. Moi, je suis à court de remarques sur ton retour de lecture. Super, quoi. Moi, je trouve que t'as eu du courage de te taper ce bouquin.
Oh, bon, ça va, il est pas très gros non plus.
Si ça vous fait réagir, hein, il reste quelques minutes encore pour appeler Calibre.
Oui, toujours au 04 76 09 09 09.
Et tu veux un petit morceau? Tu veux l'annoncer?
Allez, volontiers. C'est donc Glory Box de Portiched.
Of mine, a thousand flowers could bloom.
up, I'm gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For oh, I've been a temptress too long. Just give me a reason to love you.
Revoilà Calibre.
Sous les applaudissements.
Alors maintenant, on va vous parler un petit peu de l'agenda, ce qui se passe ces quelques jours à Grenoble. Et du coup, avec en premier lieu un rendez-vous à l'occasion de la journée marche des femmes. Donc il y a un pique-nique organisé par le collectif IVG autour des menaces qui pèsent sur l'avortement. Du coup, c'est un rendez-vous à midi devant l'hôpital Couple Enfant, au nom si magnifique.
Et c'est ce samedi, c'est ça?
Ce samedi, pardon, oui. J'allais dire demain, mais non, c'est après-demain. Samedi
ça.
5.
Dans deux jours. Et voilà, alors c'est devant l'hôpital Couple Enfant, donc à la tronche, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Ah oui, c'est ça, il y a le planning familial qui a lancé il y a quelques jours une campagne pour faire pression sur le gouvernement et les pouvoirs publics et tout ça pour rembourser bien plus de contraceptifs que ce qu'ils en remboursent actuellement, c'est-à-dire les pilules de troisième génération qui coûtent quand même 110 euros par an, le patch, l'anneau vaginal, l'implant peut-être, ou pas, ou en tout cas voilà, plein de méthodes de contraception qui pour l'instant sont pas du tout remboursées et les capotes non plus d'ailleurs, que ce soit les fémidomes ou les préservatifs masculins. Enfin en tout cas voilà, le planning a lancé une campagne, faire pression sur les pouvoirs publics pour essayer que toutes ces autres méthodes de contraception soient aussi remboursées et pas que voilà la simple...
La pilule, l'implant et le stérilet sont remboursés à 65%, mais ce sont les seuls.
Voilà, alors je pense vous pouvez... écrire, envoyer des mails à divers députés, ministres ou choses comme ça, si vous avez envie de râler pour dire que voilà, vous avez envie que vous n'avez pas envie de prendre spécialement la pilule, ou alors vous voulez prendre des pilules chères et que vous pouvez pas parce que ça coûte trop cher. Voilà. Autre petite info pour l'agenda.
Oui, un stage de base d'autodéfense pour femmes est organisé à Grenoble les dimanches 20 et 27 juin. Ça dure toute la journée. La participation aux deux jours est nécessaire. Il faut s'inscrire avant le 12 juin sur une adresse mail à laquelle on peut aussi demander des informations, qui est donc riposte@pimienta.org. Du coup, le but un peu de ces stages d'autodéfense, c'est d'acquérir des moyens de se défendre, de prévenir les agressions, de prendre conscience de la force qu'on a en soi et de prendre ou reprendre confiance en soi. C'est donc fait par des femmes, pour des femmes. On peut y aller même si on n'a pas une condition physique de haute athlète. C'est adapté à tous, à toutes, pardon, quel que soit l'âge et la condition physique. Et voilà, je redonne l'adresse qui est donc riposte@pimienta.org.
Et voilà, alors il faut, pour les inscriptions, c'est noté sur le message qu'on a reçu qu'il fallait s'inscrire avant le 12 juin. Et le 12 juin, c'est dans pas longtemps, et d'ailleurs, ce sera juste, la marche de fierté qui aura lieu à Lyon, en Rhône-Alpes. Et je crois le rendez-vous est à midi. J'ai oublié. Ou à Lyon, vous irez sur le site de la marche des fiertés. Malheureusement, j'ai un petit trou pour le départ de la marche. Alors voilà, hein, la marche des fiertés, c'est donc LGBTQI, donc lesbienne, gay,
trans, queer, intersex.
Voilà, et c'est pour montrer que on peut être fier de tout ça. Voilà. Et puis dernier petit truc à noter dans son agenda.
Oui. Les Amazones.
Les Amazones.
Qui donc nous proposent le spectacle En suivant Emma. Du coup, la première sera à Pommiers-la-Placette le mercredi 9. Et ensuite, le samedi 12 à Antigone, à Grenoble, sur réservation. Le mercredi 16 à la MJC de Fontaine. Le 22 à nouveau à Antigone, en non-mixité femmes, sur réservation aussi. Et une date à Lyon, le 25, vendredi 25, à la boulangerie du Prado. Et enfin, à l'amphithéâtre de Pont-de-Clé, sur invitation, le 30. Alors, les invitations, elles sont disponibles dans... soit à Pont-de-Clé, soit à Antigone, etc. C'est gratuit, mais juste il faut retirer ses invitations. Voilà, qui sera donc une salle, une grande salle où ce sera agréable de voir le spectacle parce qu'on y voit de loin, contrairement à Antigone qui est une petite salle où donc il y aura beaucoup, peut-être beaucoup de monde. Voilà.
Et bon, ouais, deux mots sur la pièce quand même, c'est que bon voilà, c'est écrit par Howard Dean et donc ça retrace une partie de la vie d'Emma Goldman, militante anarchiste féministe de la fin du 19e. Et voilà, alors elle est un peu absente des livres d'histoire, mais c'est pas pour autant qu'elle a pas eu une vie passionnante et nécessaire qu'il faut raconter. Mm. Voilà.
Tout à fait. Ouais, du coup, c'est une pièce de femmes amatrices qui se sont montées sans chef ni maître metteur en scène et du coup qui se sont mises en scène elles-mêmes et on attend de voir ça avec impatience.
Et alors transition parfaitement amenée puisque si vous voulez vous, chères auditrices et auditeurs, vous mettre en scène à notre place, la place des animatrices et des animateurs de Calibre, et ben voilà, Calibre, l'équipe de Calibre et d'autres personnes autour de Grenoble organisent une soirée. Et oui, et c'est encore une fois à Antigone, 22 rue des Violettes à Grenoble, et ça s'appelle
Let's Talk About Sex.
Et donc cette fantastique petite soirée qui commence à 19h le vendredi 18 juin, et ben avec un petit de quoi déguster et se mettre dans l'ambiance à 19h. Hop, et ensuite on se mettra autour de table et il y aura un peu des sujets qui ont été préparés.
On pourra piocher des questions.
Et donc à chaque fois, il y aura un peu des personnes pour se mettre à notre place, à nous, animatrices et animateurs de Calibre.
Et s'essayer à répondre et discuter autour de la sexualité en partant sur des situations qu'on aura donc préparées.
Voilà.
Du coup, c'est fini pour ce soir.
C'était la 22e émission de Calibre.
Vous aviez donc à la technique Noémie et Maud et sur le studio Lunar et Lou. On vous dit à bientôt.
À jeudi prochain.
Sur Radio Kaléidoscope.
Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope. Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.